Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dernier numéro de l'année 2021. Avec nos rendez-vous traditionnels, dans un instant, nous reviendrons sur les temps forts de l'actualité avec le duel. Et puis en débat ce samedi, des questions existentielles, des questions sans doute aussi vieilles que l'humanité et qui sont toujours aujourd'hui des sujets de clivage en cette campagne présidentielle, clivage politique, mais aussi idéologique. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et s'il fallait regarder du côté de la science, des faits, de la recherche en génétique par exemple, de l'histoire au temps long, au temps très long pour répondre à ces questions. C'est la démarche d'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la génétique des populations, Luis Quintana Murci. Il est professeur au Collège de France, directeur à l'Institut Pasteur à Paris. Il publie un livre passionnant et important, le titre « Le peuple des humains sur les traces génétiques des migrations, métissage et adaptation ». Le livre est publié chez Odile Jacob et Luis Quintana Murci viendra nous expliquer pourquoi nous sommes tous des métisses et comment l'étude des phénomènes les plus évolués de l'ADN, du génome, montre l'importance de la diversité humaine. Quand les dernières recherches scientifiques éclairent le débat public, c'est le sujet central de notre débat avec Luis Quintana Murci qui nous rejoindra dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Tout va bien?
Mieux serait indécent.
Ça va.
Ça va? Eh ben écoutez, ça fait plaisir. On va directement plonger dans ce qui fait évidemment l'actualité, ce dans quoi vous vous êtes plongé, Gilles, avec la dernière vague de votre grande étude sur l'état d'esprit des Français et l'état des lieux de cette campagne ou de cette pré-campagne présidentielle. Vous nous le direz dans un instant. Tout de suite, le président de la République, il était à la télévision, c'était mercredi dans une émission « Où va la France ?» point d'interrogation diffusé sur TF1 et LCI. Il défendait son bilan, il a présenté une forme de mea culpa, il a revisité plusieurs moments clés de son quinquennat. Extrait.
Quelque chose est en train de changer, qu'il faut continuer d'accompagner, de faire advenir, qui est ce futur possible, c'est-à-dire d'avoir une nation forte, entreprenante, qui éduque mieux, et qui est plus juste.
Alors je parlais justement d'une sorte de bilan et nous avons volontairement choisi le moment ou l'un des moments où il parle de l'avenir et où il se projette dans la France de demain, celle qu'il imagine peut-être diriger s'il se représente, secret de Polichinelle ou pas, on va en débattre. Natacha Polony.
Peut-être faut-il commencer par parler de la nature de cette émission elle-même qui est en fait assez surprenante. Certes, on est habitué aux interventions de président de la République, pas encore candidat, mais quand même candidat. On se souvient tous, et ça a été rappelé toute la semaine, de Nicolas Sarkozy. Pour autant, là, il y a quelque chose de très bizarre, parce que c'était bien sur TF1, mais on avait l'impression de voir l'émission Une ambition intime. C'est-à-dire qu'il y avait dans le jeu d'acteur, dans la position des caméras, la façon de s'apesantir sur un regard, sur un tremblotement de la voix. Il y avait quelque chose quand même d'une entrée de l'émotion dans le champ du politique qui était peut-être un tout petit peu trop surjoué, je pense. Alors évidemment, la fusion TF1-M6, c'est formidable et ça réjouit. Donc c'est une façon aussi de dire au président de la République que TF1 lui offre ce moment. Mais bon, c'était très long pour un moment comme ça.
C'était 2 heures et il y a une version longue comme les films cultes Apocalypse Now, quand on parle du Director's Cut. Pour les plus motivés, ils peuvent regarder ça sur LCI.
Oui, motivé.
Et non pas 2 heures, mais 3 heures et demie d'émission. En tout cas, 4 200 000 Français ont suivi cette émission. C'est évidemment inférieur aux allocutions solennelles du président de la République au cœur de la crise sanitaire. Gilles, vous l'avez regardé
attentivement. Emmanuel Macron avait, je crois, plutôt réussi ses allocutions passées, même si on avait dit, par exemple, que la toute dernière était un peu trop technique. Cet entretien Natacha a dit « il est bizarre », j'ajouterais « c'était étrange
». Bizarre, étrange, pourquoi ?
Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu pendant tout l'entretien. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi. Et en fait, je crois que ça a toujours oscillé entre deux pôles. Il y avait deux statues, vous l'avez dit, c'était le président qui était censé parler, mais tout le monde ne voyait que le candidat. Et d'ailleurs, le fait que l'audience soit plutôt celle d'un candidat que celle d'un président montrait que les Français ne s'y trompaient pas. Il y avait deux tonalités. La sincérité, une volonté de sincérité. Alors, Natacha dit c'était l'entrée d'une émotion surjouée, donc on peut y croire ou pas. Mais ce qui est compliqué, quand il y a, c'est que la deuxième tonalité, c'était la roublardise. Je ne fais pas de politique.
C'était magique cette phrase.
Avec le petit sourire qui montre qu'il sait qu'il dit quelque chose que les gens ne vont pas croire. Mais c'est très compliqué d'être en même temps sincère et roublard.
Mais tous les présidents ont tenu ce discours.
Oui, mais quand on fait dans le même exercice l'exercice de sincérité et de roublardise, c'est difficile, c'est plus difficile de convaincre. Et puis enfin, il y avait toujours une oscillation entre deux postures. L'humilité, vous avez dit les mea culpa, c'était vrai sur des comportements personnels, ça a été vrai parfois sur un ou deux sujets de politique.
Sur et des dans petites phrases.
Et dans le même temps, quelque chose qui est très constitutif du macronisme, le mythe de l'année zéro. Tout a commencé en 2017. C'est inédit, ce n'est jamais arrivé. Et il y a ce discours répétitif. Et là aussi, c'est compliqué de tenir en même temps le discours de l'humilité et de l'année zéro.
Encore une question de forme avant de parler davantage du fond. Natacha, vous regrettiez que le président de la République prenne la parole de manière solennelle depuis l'Élysée et sans avoir d'intervieweur face à lui. Là, il avait Audrey Crespo-Mara, il y avait Darius Rochebain, et donc c'était une interview et c'était davantage satisfaisant à vos yeux comme forme, comme exercice, que la prise de parole sans contradicteur ?
Avec tout le respect que je dois à ces deux journalistes, je ne peux pas dire que j'ai été bouleversée par le caractère piquant des questions qui ont été les leurs, par le droit de relance exercé quand le président de la République esquivait tel ou tel problème. Et je pense qu'il y avait surtout, en effet, une discussion charmante et amicale. C'est pour ça que j'ai parlé de l'émission Une ambition intime. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on était dans le champ du politique au sens où je l'entends. D'ailleurs, on était beaucoup dans le champ de la communication. Je veux dire, l'accumulation du verbe « j'ai appris » qui est un vieux truc de communication politique. Les mea culpa, je ne sais pas combien de fois Emmanuel Macron a fait son mea culpa. C'est à peu près, je pense qu'il y a un concours avec Nicolas Sarkozy sur le thème « j'ai changé ». Mais là, sur le côté « j'ai blessé », etc., il faudrait faire le compte depuis le début du quinquennat, du nombre de fois où il s'est excusé d'avoir blessé. Donc il y avait comme ça différents éléments. Pour ce qui est du politique, c'est-à-dire de la question de savoir vers quoi il veut emmener la France, qui était quand même censé être le sujet,
oui.
Je vous avoue que je ne suis pas totalement plus éclairée. En revanche, on a bien compris que son bilan était absolument extraordinaire, malgré, en effet, comme l'a dit Gilles, les faits extraordinaires qui se sont passés pendant son quinquennat.
Gilles, on a entendu le président de la République dire, avouer qu'il aimait mieux les Français aujourd'hui qu'hier. Comment est-ce que vous avez reçu cette phrase-là ?
On est je pense, deux éléments. Le premier, c'est que ce quinquennat a été marqué. Je pense que la vraie césure du quinquennat, c'est pas la crise sanitaire, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est que après le mouvement des Gilets jaunes, que les réformes qui avaient été engagées ont quand même, pour l'essentiel, été interrompues. Et une partie de l'origine de ce mouvement tient dans la relation qui s'est brisée avec une partie des Français. Et c'est ce fil-là que Emmanuel Macron a essayé de renouer. Et dans le même temps, la percée d'Éric Zemmour, qui ne parle que de la France et qui ne parle pas des Français, l'incitait sans doute davantage à être aussi auprès des Français. Donc je crois que c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. J'ajoute, Natacha disait, on l'attendait sur son projet pour la France. Ça viendra peut-être le jour de sa candidature. Là, l'émission était quand même centrée sur le bilan, et je pense que c'était pas complètement une émission pour rien. Non pas sur la partie purge, parce que c'est vrai que ça fait épurge au sens de, non pas que c'était une émission ennuyeuse, mais que c'était une émission qui était faite pour clore ce chapitre de...
Solder les comptes, la...
voilà, pour solder les comptes, parce que...
La polysémie est intéressante quand même, cher Gilles.
C'est vrai que ça fait, là, je ne sais pas combien de fois que Emmanuel Macron le fait. Mais je crois que malgré tout, c'était une émission qui était intéressante, parce qu'il y avait des choses qu'on apprenait sur le passé... Pas tellement de ce que disait Emmanuel Macron, mais moi j'ai été très frappé des questions qui étaient posées aux Français sur ce qu'ils retenaient du bilan d'Emmanuel Macron. Et on voyait qu'il y avait des impressions, mais qu'il n'y avait aucune réforme qui avait été mémorisée. Aucune. Et c'était pas inintéressant, malgré tout, sur un ou deux points sur le futur. Et notamment, il a cette fois fait un pas supplémentaire de clarification dans la réforme du système des retraites, en abandonnant cette fois-ci de manière explicite la réforme par points, la réforme systémique qu'il avait, qui était emblématique de sa première campagne.
Jusqu'à quand pourra-t-il rester dans l'ambiguïté, président, pas encore candidat ?
Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que il va encore...
Non, mais on se souvient par exemple de Nicolas Sarkozy qui, en 2012, disait qu'il lui avait manqué 15 jours pour l'emporter. On se souvient de François Mitterrand qui, en 1988, s'était déclaré tard, très tard, en mars, et donc juste avant le mois d'avril et les élections. C'est une question de timing aussi. Donc là, il prépare sans doute cette annonce.
Et là, l'élection présidentielle arrivera très tôt. Donc il faut bien voir que par rapport aux dernières élections... il y a 15 jours de moins. Donc tout l'équilibre va consister pour lui à profiter au maximum du début de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, sans pour autant trop tarder. Je pense qu'il doit déjà avoir établi un calendrier disons à peu près... Qui risque de nous amener vers le mois de février, j'imagine, mais je ne saurais pas en dire plus. Simplement, je pense que nous allons avoir beaucoup d'interventions solennelles et passionnantes sur le rôle moteur de la France dans l'Union européenne.
Même question, Gilles.
Oui, c'est le genre de situation, je remets ma casquette ancienne de proximité avec les politiques, dans lesquelles il faut à la fois avoir une fourchette, un temps dans lequel on va déclarer sa candidature, et après avoir le sens du moment et être capable d'accélérer ou de ralentir en fonction de l'actualité. Donc, tous les présidents se sont déclarés tard. À chaque fois, les autres candidats trépignaient en disant quand est-ce qu'il vient. Tous les candidats battus considèrent que avec 15 jours de plus, ça aurait été beaucoup mieux. Donc là, on est dans du grand classique.
Et aucun n'a été réélu hors période de cohabitation, hors Jacques Chirac et François Mitterrand. C'est donc un cas qui sera intéressant à observer. Est-ce que l'histoire se répète ou est-ce que ce sera justement, encore une fois, une campagne inédite ? Histoire à suivre, évidemment, le duel continue.
Le grand face-à-face, le duel.
Le président de la République n'est donc toujours pas officiellement candidat, mais vous vouliez, Natacha et Gilles, faire une sorte de bilan d'étape de cette campagne présidentielle qui a maintenant commencé, qui en sont les gagnants, qui en sont les perdants. Rien n'est joué, mais on a vu au cours des dernières semaines, des derniers mois, des phénomènes apparaître et des figures émerger. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais parmi ceux qui se sont imposés, ce qu'on peut qualifier de gagnant, peut-être, vous allez nous le dire, il y avait cela.
La France ensemble, la France encore, la France toujours, voilà ce que je veux, voilà ce que je vous propose, voilà pourquoi je me bats avec toute la détermination d'une Française libre.
Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde.
Valérie Pécresse, puis Éric Zemmour à Villepinte, évidemment, et du côté des perdants ou de ceux qui ont du mal à émerger. Écoutez.
L'union, l'histoire le montre, c'est ce qui fait la gauche. Sans union, il n'y a pas de destin pour la gauche.
Le sujet, désolé, ça n'est pas de sauver le Parti Socialiste. Le sujet, c'est de sauver notre pays.
Anne Hidalgo, puis Yannick Jadot, du côté de ceux qui ont du mal à émerger ou à s'imposer dans les sondages. Le choix, je ne sais pas s'il est arbitraire, mais est-ce qu'on peut à peu près situer les choses comme ça, Gilles ?
On peut. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans cette pré-campagne, si on redéroule le film depuis le début du mois de septembre jusqu'à cette mi-décembre. C'est une nouvelle fois une campagne dans laquelle les surprises se sont accumulées. Et avant d'en venir aux candidats, si je devais désigner un gagnant et un perdant, je dirais le gagnant, c'est l'incertitude. Je l'ai dit, il y a eu beaucoup de surprises et c'est ce que montre l'enquête que nous publions aujourd'hui même avec Le Monde, le Cevipof et Ipsos, une mobilité électorale absolument sans précédent. En l'espace d'un mois et demi, puisque la vague précédente datait du mois d'octobre, de la mi-octobre, vous avez 30% de Français qui ont changé d'avis.
Changer d'avis,
ça veut dire que pour la moitié d'entre eux, ils disaient qu'ils voulaient s'abstenir et aujourd'hui ils disent qu'ils veulent voter, ou ils disaient qu'ils étaient sûrs d'aller voter et aujourd'hui ils veulent s'abstenir. Et pour une autre moitié d'entre eux, donc 14%, ils ont changé de candidat, ils sont passés d'un candidat à un autre. 30% en l'espace d'un mois, c'est absolument, absolument fou. Il y a 20 ans ou il y a 30 ans, qu'est-ce qui se passait? Dis-moi pour qui tu as voté, je te dirai pour qui tu votes et pour qui tu voteras toute ta vie. Là, en l'espace de quelques semaines, on a des mouvements d'ampleur absolument considérables. Le perdant, je dirais la raison ou la mesure. On a quand même eu, il faut le dire, une pré-campagne consternante. C'est mon sentiment, mais je crois que c'est assez largement le sentiment des Français. Quand on regarde l'intérêt qu'ils portent à la campagne, il est près de 15 points inférieur à ce qu'il était à la même période dans la campagne précédente. Et quand on regarde leur volonté de participer, d'aller voter à ce scrutin, on est près de 10 points en dessous de la campagne de 2017. Donc il y a une forme de déception par rapport à cette pré-campagne.
Natacha ?
Je pense que, en effet, les phénomènes que décrit Gilles peuvent peut-être s'expliquer par deux éléments. D'abord, la destruction des idéologies politiques, c'est-à-dire, on voit bien le délitement de toute forme de structure de pensée, c'est-à-dire de projets cohérents relevant d'une famille politique. Bon, c'est évidemment d'autant plus frappant à gauche, où la quasi-mort de la social-démocratie est en train d'être actée là, sous nos yeux, même si, encore une fois, il peut toujours y avoir des résurrections fabuleuses, mais on voit bien à quel point il y a là quelque chose qui est en train de basculer. Et de ce point de vue-là, 2017 n'était qu'un moment dans cette évolution. C'était le moment où vous avez une maison entièrement infestée de termites, mais qui tient encore, et tout à coup, elle s'effondre sur elle-même, parce que depuis des années, les vieux partis de gouvernement étaient rongés de l'intérieur. Là, nous sommes dans ce moment où finalement les idéologies politiques sont en train d'exploser. Et on voit bien l'écartèlement, par exemple, de la droite qui ne sait pas de quel côté elle doit pencher, et le fait que l'un des enjeux de la campagne va être maintenant de savoir comment Valérie Pécresse construira un discours cohérent avec des tiraillements aussi majeurs. Et le deuxième élément, me semble-t-il, c'est ce qui explique ça, et qui est le sentiment qu'ont beaucoup de citoyens que, finalement, ce que leur disent les candidats ne se traduira pas en action politique, c'est-à-dire cette déception qui est pas seulement le poncif, ils nous mentent pendant les campagnes et ensuite ils
nous bercent d'illusions,
mais
et
l'impression
ensuite, ils ne passent pas aux actes.
Ouais, l'impression de plus en plus prégnante qu'il n'y a plus de possibilité de traduire la volonté des citoyens, c'est-à-dire du peuple, assemblée du peuple comme communauté politique. Et la question est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que petit à petit, le système politique n'arrive plus à traduire cette volonté des citoyens. Et je pense que si on ne répond pas à cette question, on va continuer dans ce délitement et donc dans les phénomènes de désaffection, non seulement vis-à-vis des candidats, mais vis-à-vis de la démocratie elle-même.
Mais à la question, qui sont les gagnants, qui sont les perdants ?
J'allais vous dire, les perdants pour l'instant sont les citoyens. Si on a une élection avec une abstention qui franchit un certain cap, c'est la démocratie elle-même qui est fragilisée. Donc, nous allons voir ce qui va surgir de cette suite de campagnes. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura forcément à un moment donné une cristallisation sur un ou plusieurs candidats, des phénomènes qui vont encore bouger. C'est une évidence. Mais si l'abstention reste trop forte, en revanche, ça traduira un malaise profond. Et si l'éclatement entre des candidats irréconciliables est trop grand, là aussi, c'est-à-dire que si on continue à avoir des gens qui n'arrivent pas à rassembler plus de 20 à 25% des votes exprimés, c'est-à-dire en fait bien moins si on reporte au nombre d'inscrits, c'est le signe d'un éclatement de la communauté politique.
J'insiste malgré tout sur la question des personnes, puisqu'on est en campagne présidentielle et qu'il s'agit donc d'élire celui ou celle qui présidera aux destinées de la nation pour les 5 ans qui viennent. Si on doit faire la liste des gagnants, est-ce que vous êtes d'accord qu'à ce jour, Valérie Pécresse, Éric Zemmour sont ceux qui sont le plus manifestement les principaux bénéficiaires de cette pré-campagne, Gilles?
Perdant la gauche, les gauches, parce que tous les candidats sortent de ces 3 mois dans une situation plus mauvaise qu'au début de l'automne. Perdant, mais Marine Le Pen était sûre d'être qualifiée, elle a subi un recul assez sévère, elle est aujourd'hui menacée, mais elle résiste, mais avec Éric Zemmour, elle a maintenant des réserves si elle réussit à se qualifier pour le second tour, mais elle est fortement dédiabolisée avec l'irruption d'Éric Zemmour. Gagnant Éric Zemmour, mais gagnant, évidemment, il était nulle part il y a 3 mois, il est à 14%, un peu plus de 14% dans l'enquête que nous publions aujourd'hui, une percée inédite, mais on voit aussi les limites, son image, l'étoffe du président de la République, l'inquiétude qu'il provoque, c'est très mauvais. Valérie Pécresse, gagnante, d'abord gagnante au sens propre, puisqu'elle a gagné la primaire, mais gagnante aussi parce que là, comme souvent après d'autres primaires, elle a une percée, une poussée qui est forte, plus 7 points entre octobre et décembre. 17
dans les
points.
Sondages d'intention de vote aujourd'hui, elle est qualifiée au second tour.
Elle est qualifiée au second tour. Elle reconstitue le fillonisme de 2017, mais avec quelques spécificités. C'est pas exactement les électeurs qui viennent de la rejoindre ne sont pas exactement les mêmes. Et je dis mais parce que il va falloir pour elle les fidéliser. Reste quand même une personne dont on n'a pas parlé ou dont on a parlé dans la première partie, qui est le
Emmanuel
président
Macron.
De la République sortant, qui demeure le favori, qui a plutôt réussi ces 3 mois, mais qui est un favori fragile.
Natacha.
Oui, je pense que c'est en effet tout ce que vient de dire Gilles est tout à fait est assez évident. J'ajouterais le fait que parmi les perdants, pour l'instant, il y a un Jean-Luc Mélenchon qui n'arrive pas à recréer la dynamique de 2017 et on verra bien ce que cela donnera. Il y a un Yannick Jadot, par exemple, qui est attaqué de toutes parts dans son propre parti. C'est-à-dire que c'est assez fascinant de voir Sandrine Rousseau faire quasiment explicitement le jeu de Christiane Taubira, de tout ce qui peut savonner la planche de Yannick Jadot. Bref, il y a là quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire qu'il y avait une fenêtre de tir pour l'écologie, pour un parti, pour le parti Europe Écologie Les Verts et pour un candidat écologiste. Et on voit tout ça se déliter. Je pense que, en effet, la question de l'état de la gauche est évidemment un sujet absolument fondamental. Certains attendent en se disant, en gros, cette élection va permettre de détruire ce qui existe et derrière, on essaiera de reconstruire. Je crois que ça nous raconte surtout, et ça me semble important à dire, l'échec des différents partis de gauche depuis maintenant 30 ans, l'échec à penser les conséquences de la mondialisation et la possibilité d'y répondre. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une évolution qui est l'acceptation par certaines franges de la gauche, du marché, du libre-échange, avec l'idée que ça se réglerait par la redistribution. C'est-à-dire, c'est exactement le débat que nous avions la semaine dernière sur la nature même de la gauche. Et je crois que c'est tout ça qui se voit désormais de façon évidente dans le bazar et le rêve, évidemment, du Messie qui viendra sauver la gauche.
D'un mot, Gilles, avant de passer au sujet suivant.
Deux phrases. Je me méfie beaucoup de la politique de la terre brûlée. S'il n'y a rien en 2022, il peut y avoir moins encore après 2022. Deuxième phrase, il va y avoir d'autres mouvements à l'évidence dans la campagne elle-même et Natacha a prononcé le mot de cristallisation tout à l'heure. Ma conviction est que nous sommes maintenant dans un état de la démocratie et de la politique où il n'y a plus de cristallisation. On disait avant le mois de janvier, le mois de février, c'est le mois de la cristallisation. Maintenant, la cristallisation, elle vient le jour du vote. Jusqu'au jour du vote, il y a des mouvements.
On avait envie de parler de l'esprit de Noël. On avait envie de s'évader, de quitter un peu la question de la campagne présidentielle. Mais même Noël, l'esprit de Noël est rattrapé par la politique.
Le grand face-à-face, le duel.
L'idée que tous les élevages sont des cibles est une idée désespérante. La France est un pays qui s'est illustré par son excellence dans ces domaines-là. Je ne suis pas pour qu'on supprime nos compétences d'excellence. Je suis pour qu'on veille au bien-être animal. Le gavage d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le gavage d'hier. Hein.
Vous l'avez évidemment compris, il s'agissait du foie gras. Le foie gras, sujet politique, sujet de clivage politique. Et on venait d'entendre le président du Modem, François Bayrou, qui défendait le foie gras et avec cette déclaration que le gavage d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le gavage d'hier. C'est intéressant de voir que ce sujet qui déclenchait les passions les avive encore plus aujourd'hui avec le projet de supprimer le foie gras des réceptions officielles par la ville de Lyon, par exemple. On a vu les différents candidats, justement, à l'élection présidentielle s'engager pour ou contre le foie gras. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Yannick Jadot. Il y a une polémique désormais national, c'est assez curieux. En tout cas, c'était intéressant de lire cette tribune de dimanche dernier dans le journal du dimanche, tribune de Grégory Doucet à Lyon qui disait que ce n'était ni un appel au boycott ni une mesure d'interdiction de ne pas servir de foie gras au cours des événements officiels. Le maire de Lyon s'est exprimé, le débat malgré tout continue. Comment est-ce que vous avez reçu cette déclaration, cette décision politique, Natacha ?
Premier point, finalement, je trouve ça assez rassurant que la France reste la France, c'est-à-dire un pays où la gastronomie et le partage autour d'une table sont des éléments essentiels de la sociabilité. Donc c'est très sain que l'on parle du foie gras. Deuxièmement, je pense en effet que ce serait encore plus sain et encore mieux si dans ce débat, d'abord, on s'arrimait à quelques connaissances culturelles sur ce qu'est le foie gras, d'où il vient. J'ai du fait que l'humanité connaît le principe du foie gras et du gavage des oiseaux depuis l'Égypte ancienne.
Oui, et mais qu'ensuite, la question du bien-être animal est une question très contemporaine, Natacha.
Oui, mais d'accord, mais je continue. Donc ça passe par l'Égypte ancienne, puis par les Juifs, qui l'amènent en Europe de l'Est. Au XVIIIe siècle, ça arrive en Alsace. Et ensuite, largement après, le Sud-Ouest le fait avec des canards, puisqu'au départ, c'était avec des oies. Donc il y a une tradition de l'humanité qui avait repéré que les oiseaux migrateurs se gavent naturellement, et donc que ça provoque une... ce qu'on appelle une stéatose, c'est-à-dire une maladie du foie qui le fait grandir un petit peu, mais qui est une maladie réversible, puisque tous les ans, les oiseaux migrateurs donc font cette œuvre de gavage pour migrer. Donc ça, c'est un point. Je veux dire, à partir de là, nous avons, depuis une époque très récente, décidé que le foie gras devait être un produit industriel, qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché à un prix tel qu'en fait... c'est absolument ignoble, ça n'a plus de foie gras que le nom, et que c'est fait dans des conditions qui sont atroces pour les animaux. Mais c'est bien la bascule vers une agriculture industrielle qui est absolument monstrueuse. Et ce qui me dérange dans la façon dont les élus écologistes prennent le problème, c'est que, en jetant l'anathème sur l'ensemble des producteurs, ils s'interdisent d'être efficaces. Parce qu'en fait, les gens qui vont cesser de consommer ces produits-là, c'est la même chose pour la viande. Ce sont ceux qui auraient pu justement favoriser des élevages respectueux au maximum du bien-être des animaux, faisant cela à petite échelle, en respectant la saisonnalité, car il y a une saisonnalité du foie gras. Or, en jetant l'anathème sur tous, eh bien, ce sont ces gens-là qui vont arrêter de consommer, donc ça va tuer les petits éleveurs qui sont artisanaux. En revanche, rassurez-vous, les industriels qui font de la merde, eh bien ceux-là, ils pourront continuer à en faire.
Gilles Finkelstein.
Alors moi, je vais aborder ce sujet-là avec une certaine prudence. Je dois reconnaître que je suis meilleur sur la consommation que sur la production de foie gras. Et je sais que ça fait partie des sujets sur lesquels il y a une polarisation passionnée des Français et certainement des auditeurs entre ceux qui sont choqués par la maltraitance animale et qui ne voient pas pourquoi ce n'est pas purement et simplement interdit, et ceux qui, à l'inverse, considèrent qu'il faut arrêter d'embêter tout le monde et respecter les traditions. Il y a à la fois une dimension politique et une dimension philosophique. La dimension politique, c'est de savoir si la politique a à s'intéresser à ce que l'on a dans nos assiettes. Et la réponse, je crois, est oui. Et même de plus en plus, pour des raisons qui tiennent à la fois à la santé, à la culture, à l'environnement. Donc, il y a ce sujet-là qui devient de plus en plus un sujet politique, avec sur la question du foie gras une vraie spécificité française, puisqu'on est un des rares pays dans lequel le gavage des oies est encore autorisé. Il y a dans ce sujet politique le sujet de l'écologie, où on voit quand même un certain nombre de maires écologiques qui concentrent ou qui donnent l'impression de concentrer leur action sur des symboles culturels au risque de la caricature, au détriment de la lutte contre le changement climatique, au risque d'ailleurs d'empêtrer encore davantage la campagne de Yannick Jadot. Bon, ça c'est la première dimension. Et puis je termine par la deuxième dimension, rapidement, qui est la dimension plus philosophique. Dès lors qu'on considère que l'homme n'est pas un animal exactement comme les autres, donc que l'on n'est pas ce qu'on appelle un antispéciste, on peut dire que l'homme a des devoirs par rapport aux animaux. C'est vrai par rapport aux et des devoirs de nature différente selon que ce sont des animaux domestiques, des animaux sauvages ou, comme en l'espèce, des animaux d'élevage. Il y a un concept sur les animaux d'élevage, celui qu'évoquait François Bayrou dans le son que l'on a entendu, qui est celui de la bientraitance. Et donc, c'est cette question-là qui doit être traitée quand on parle du gavage des oies. Est-ce qu'il y a un gavage qui peut respecter la bientraitance des animaux? Je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer de régler cette question.
En effet.
Bonne fête en tout cas, et on passe tout de suite au débat.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
L'homme n'est pas un animal comme les autres, c'est Gilles Finkelstein dans le texte. C'est une question en tout cas qui est aussi vieille qu'Homo sapiens, qui continue aujourd'hui de se poser, qui se formule sous différentes formes, qui peut se décliner sous plusieurs manières. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? On pourrait prendre ces questions au sens politique, puisqu'elles sont traitées au cœur de la campagne présidentielle. On peut aussi les aborder d'un point de vue scientifique et s'éloigner de l'idéologie pour essayer de comprendre tout simplement ce que peut être le peuple des humains. Le peuple des humains, l'expression peut étonner, elle peut être en tout cas expliquée par celui qui en parle sans doute le mieux. C'est l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la génétique des populations, Luis Quintana-Murci. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, directeur à l'Institut Pasteur à Paris, et vous publiez Le peuple des humains, sous-titre sur les traces génétiques des migrations, métissage et adaptation. C'est publié chez Odile Jacob et c'est absolument passionnant. Vous travaillez sur l'ADN, sur le génome, et vous montrez dans ce livre non seulement l'importance de la diversité humaine, vous expliquez l'état des dernières recherches scientifiques, et ça permet non seulement d'éclairer le débat public, mais j'allais dire plus profondément, de mieux comprendre qui est Homo sapiens, d'où il vient. J'aimerais juste que vous nous expliquiez, Luis Quintana-Murci, cette expression « le peuple des humains ». Elle peut étonner, parce qu'un peuple, en général, s'est ancré sur un territoire. On peut dire que c'est l'attachement à une langue, à une culture, que sais-je. En tout cas, on en débat et on n'en finira sans doute jamais d'en débattre sur la scène intellectuelle et sur la scène politique. Pour vous, le scientifique, le spécialiste de génétique, le peuple des humains, qu'est-ce que ça veut dire ?
Le peuple des humains, ça veut dire se connaître, c'est-à-dire une espèce très récente On s'est originé il y a juste 200 000 ans, 300 000 ans en max, et qu'on a beaucoup de diversité génétique, qu'on a échangé entre nous, et que une chose, c'est ce qu'on est d'un point de vue génétique, et l'autre chose, c'est ce qu'on est ou ce qu'on devient d'un point de vue culturel. Ça m'intéressait beaucoup le débat sur le foie gras, par exemple.
Oui,
oui, parce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, le foie gras.
D'accord.
Et on peut être tous très semblants d'un point de vue génétique, mais avoir beaucoup de différences culturelles. C'est deux taux d'évolution complètement différents et qu'il ne faut pas non plus les mettre les uns contre les autres.
Quand vous parlez de peuple des humains, c'est une manière de dire qu'on vient tous de la même souche, c'est une manière de dire qu'on a tous la même appartenance et que cette appartenance, c'est quelque chose qui est connu mais que vous avez exploré sans doute mieux que d'autres. C'est l'invitation à un voyage qui emmène en Afrique.
Tout à fait. C'est exactement ça et c'est ça que j'ai voulu transmettre dans ce livre. C'est montrer qu'on vient tous d'Afrique. Vous allez me dire, on le savait.
On le savait.
Et pas beaucoup de gens le savent encore. Hein.
Vraiment?
Oui, je me rends compte.
Malgré l'histoire de Lucie, malgré la vallée du Rift, malgré dit, tous les hommes viennent de cette région.
Oui, mais je pense que parfois c'est bien de le rappeler.
C'est bien de le rappeler.
C'est bien de le rappeler, mais surtout ce que j'ai voulu transmettre plus comme message scientifique dans ce livre, c'est que la diversité, la différence, c'est quelque chose que c'est bien. C'est quelque chose de très anti-jacobine, quelque part. Une chose n'est pas... On est tous pareils face à la loi, bien sûr.
Oui.
Mais ce que j'ai voulu dire, c'est un point de vue scientifique, la différence, la diversité, c'est le seul substrat pour aller de l'avance, pour s'adapter, pour survivre. Et je montre des exemples très clairs, par exemple... Comme,
face aux maladies, par exemple.
Par exemple, grâce au premier grand métissage que notre espèce a subi,
oui.
Que c'est quand elle sort d'Afrique il n'y a que 60 000 ans, très vite, elle s'est
métissée. Il n'y a que 60 000 ans, l'expression est étonnante.
Pour moi, c'est très peu.
C'est très court.
Oui. Et oui, 60 000 ans, si on tient compte qu'il y a 2000, 3000 ans, il y avait les pyramides, 60 000 ans. Qu'on sort d'Afrique, ça me paraît peu d'un point de vue évolutif. Et si on tient compte qu'on s'est divergé, qu'on s'est séparé des chimpanzés ou des autres primates il y a 6-7 millions d'années, 60 000 ans, c'est rien. Donc on sort il y a 60 000 ans et on se métisse très vite avec l'homme de Néandertal. Et c'est grâce à ce métissage qu'on a pu résister mieux les maladies infectieuses d'origine virale.
Et vous allez nous expliquer ça justement, puisqu'il est question de nombreuses maladies, du Covid évidemment, que vous rencontrez dans vos travaux. Et vous allez nous dire pourquoi le métissage est, pour reprendre votre mot, quelque chose de bien, parce que c'est pas un jugement moral, c'est un jugement sur l'évolution de l'espèce humaine. Natacha Polony.
Peut-être pour vous faire expliciter deux, trois choses qui sont dans le livre, parce que justement, vous le dites, en fait, on l'a appris à l'école, l'homme est né en Afrique, mais après, il y a différentes choses qu'on a peut-être oubliées ou que certains connaissent moins, comme par exemple le fait qu'il y a des premières migrations avant Homo sapiens, c'est-à-dire Homo erectus, l'homme de Néandertal, etc., que en fait, ce sont ils sont de la catégorie homo, mais ce ne sont pas des homo sapiens. Donc, ce sont, en fait, là, pour le coup, ce sont d'autres races humaines avec lesquelles il y a des croisements. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez qu'en fait, ensuite, au sein d'Homo sapiens, vous le disiez, il y a des brassages permanents. J'ai noté une phrase. Aucune mutation privée propre à un seul continent ou à une seule région géographique n'a été retrouvée chez 100% des individus d'une population humaine donnée, alors qu'elle est absente ailleurs. Ça signifie qu'en fait, tous les groupes humains se sont mélangés à d'autres. Il n'y a pas d'isola, il n'y a pas d'endroit où on découvre que des populations, pendant un temps assez long, seraient restées isolées du reste de l'humanité.
Louis Quintana Mourcy.
Il y a des isolas. Dans les vallées du Pakistan, par exemple, ou même les Basques, longuement, ils ont été parfois même utilisés quelque part comme des isolats. Mais jamais on trouve dans l'espèce humaine une mutation qu'elle est à 100% chez l'isolat et à 0% ailleurs. Peut-être cette mutation, on peut la trouver à 90% dans l'isolat. Il y a 10 chez l'autre, et c'est déjà énorme, ça. C'est très rare, ce genre de situation.
Natacha disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. À l'évidence, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que c'est pas heureux qu'on ait oublié tout cela, au sens où nous qui avons 40, 50, 60 ans, beaucoup de choses qu'on avait apprises sont en réalité aujourd'hui infirmées par l'évolution des connaissances. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé. Ali disait, vous faites l'état des dernières recherches, notamment sur le génome, c'est à quel point ces dernières recherches sur le génome sont proches des premières étapes, des premières études sur le génome. On est face à un basculement qui est un basculement incroyablement récent. Et c'est même frappant de voir à quel point ce début du 21e siècle est un moment de rupture. C'est vrai sur la génomique, mais c'est vrai sur l'accélération du réchauffement climatique, c'est vrai sur l'accélération du numérique, il y a une vraie rupture. C'est vrai sur l'accélération de la mondialisation. On ne perçoit pas, on perçoit un peu maintenant rétrospectivement à quel point il y a une accélération depuis 20 ans. Donc ma question, c'est dans ces découvertes qui sont des découvertes très récentes, qu'est-ce que, à grands traits, on sait et est-ce qu'il nous reste énormément de choses à découvrir ?
Luis Quintana Mossi.
Oui. Ce livre, j'aurais pas pu l'écrire, comme j'ai dit déjà, il y a 10 ans, il y a 12 ans. Ça fait déjà presque 25 ans que je suis à Paris, malgré cet accent que je réussis pas à qu'il parle. Mais j'aurais pas pu l'écrire.
Nous aimons les accents.
Oui, oui, non.
Mais et ça fait justement partie de
mais
l'éloge
souvent,
de la
dis,
diversité.
Ça fait 25 ans que je suis à Paris et les gens s'étonnent de mon accent. Mais parce qu'il y a des choses, par exemple, il y a 15 ans, toute la communauté disait, communauté en génétique, en biologie en général, en anthropologie, on ne s'est surtout pas métissé avec l'homme de Néandertal. Mais c'était presque une fierté de ne pas savoir métisser.
C'est ce qu'on a appris, tous.
Là, on sait que 2,5% du génome de nous tous ici est d'origine néandertalien. Il n'y a encore pas plus de 10 ans, et que grâce à la génétique, on a découvert une nouvelle espèce humaine, aujourd'hui disparue, l'homme de Denisova, qui en gros c'est le cousin de Néandertal, en Asie.
Ça veut dire qu'on a fait la guerre à Néandertal, mais on s'est aussi fait l'amour entre Sapiens et Néandertal. Et c'est l'une des manières de se métisser, l'une des manières dont on s'est construite cette diversité. Natacha Polony.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure, dans votre première intervention, la question de la différence entre le brassage génétique et les cultures. Et en fait, j'aurais voulu que vous nous expliquiez un peu comment ça s'articule. Parce qu'il y a des passages dans le livre où vous expliquez, par exemple, que la culture a une influence même sur le patrimoine génétique, dans le sens où quand vous avez, par exemple, ce qu'on appelle la patrilocalité ou la matrilocalité, c'est-à-dire, en gros, est-ce que le couple va habiter dans la lignée, dans la famille du mari ou dans la famille de la femme, ça ne donne pas ensuite le même brassage. Mais pour
ça,
autant,
c'est
la question qui c'est celle de l'articulation entre diversité, uniformisation culturelle ou au contraire recréation de cultures spécifiques. J'ai en tête la fin de Triste Tropique dans laquelle Claude Lévi-Strauss déplore ce qu'il appelle la monoculture. Il dit l'humanité va vers la monoculture comme la culture de la betterave et nous nous ressemblerons tous et il trouve ça triste. Donc comment se joue cette articulation en fait entre le maintien de cultures humaines diverses ou au contraire l'uniformisation par la mondialisation et le brassage génétique dont vous parlez et la nécessité pour l'humanité d'avoir un brassage génétique.
Ouais. Luis Quintana Mossi.
Non, c'est la question du million d'euros que vous dites. Il y a un brassage génétique qui est toujours bénéfique, comme j'explique là, avec plein d'exemples très concrets en Afrique, de comment on peut...
Par exemple, comment le métissage en Afrique a permis de mieux résister au paludisme.
Exactement.
C'est l'un des exemples, et l'un des nombreux exemples qui montrent comment on a pu changer, s'adapter pour résister au virus. Et j'invite les lecteurs d'ailleurs à découvrir ce qu'apporte le métissage et le changement.
Mais le biologique n'est pas nécessairement, tandis qu'effectivement c'est influençable par la culture, n'évolue pas à la même vitesse et ne doit pas non plus évoluer à la même vitesse que la culture. Je vous donne l'exemple de moi-même, parce que c'est celui que je connais le mieux. Donc moi, je suis un peu mondialisé dans ma culture. J'ai vécu dans 3 ou 4 pays et j'aime bien ça. En revanche, ma langue maternelle, dont j'en suis très fier, c'est le catalan. Et ça ne m'empêche pas d'être un très bon Parisien et aller en Polynésie, aux États-Unis, et en être ravi. Mais vous voyez, ce qu'on est d'un point de vue génétique ne doit pas nécessairement correspondre à qui on est d'un point de vue culturel.
Gilles.
Je voudrais quitter un instant la génétique et ce métissage pour aborder l'autre aspect du livre après, qui est celui des migrations. Donc l'homme sapiens part d'Afrique et par vagues successives. Ce qui serait intéressant d'ailleurs que vous décriviez, il va peu à peu dans le monde. Mais je voudrais, une fois qu'on a fait ce grand mouvement, vous poser une question sur la France. À un moment, vous évoquez la France et vous dites, et d'ailleurs j'ai été très surpris, la France est longtemps restée aux abonnés absents dans les études de diversité génétique. Donc ça fait très peu de temps, et l'étude que vous citez date de 2020, qu'on sait ces choses-là. Et vous dites, la France est un modèle d'isolement par la distance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce que je comprends, c'est qu'il y a des régions, vous parlez de l'Aquitaine, vous parlez de la Bretagne, ou un fleuve, ou d'un côté ou de l'autre, donc on n'a pas exactement les mêmes caractéristiques génétiques. C'est ça, l'isolement par la distance. Et comment il faut regarder ça? Est-ce que ça se regarde de près, les différences génétiques, ou est-ce que ça se regarde de loin? Et si on se regarde de loin, eh ben, on est, nous, Français, quand même assez proches.
Luis Quintana Mossé.
L'isolement par la distance, c'est une règle très simple en génétique de population, qu'en plus ça fait beaucoup de sens. Plus de populations sont proches géographiquement, plus elles le seront génétiquement, et plus elles sont loin, plus elles le seront génétiquement. Et la France est structurée d'une façon génétique où, comme l'Europe en général, où la distance géographique correspond aux distances génétiques. Il y a même une étude qui a montré qu'en Europe, vous pouvez, sans savoir d'où les personnes viennent, juste avec leur ADN, voir à 500 km près d'où sont originaires.
Ah oui?
Ouais.
Mais d'où ils sont originaires en remontant jusqu'où?
En remontant jusqu'à nos ancêtres génétiques.
Mais justement, sur cette question, d'abord, vous expliquez ce que je trouve absolument extraordinaire, qu'en effet, par exemple, la Loire constitue une barrière. Alors là, pour le coup, c'est à la fois une barrière culturelle, mais là, je ne savais pas que c'était aussi une barrière génétique. Vous racontez, en effet, qu'il y a des isolats. Et d'ailleurs, dans toute l'Europe, en fait, vous citez les Basques, les Juifs ashkénazes, qui sont des populations restées un peu isolées. Justement, sur les Basques, il y a une question, parce que quand vous dites que l'Aquitaine est un peu à part en France, Le cas des Basques me semble intéressant sur ce que vous dites, en revanche, du croisement entre la langue et la génétique. C'est-à-dire, la langue basque est un isolat total, c'est une langue qui est pré-indo-européenne. Et vous décrivez les différentes strates d'invasion en Europe et l'arrivée des indo-européens. Est-ce que la génétique, les populations sont, on trouve cette trace pré-indo-européenne, ou est-ce que c'est juste sur la langue que ça joue?
Et si vous pouvez répondre aussi sur les Juifs ashkénazes, ça m'intéresse aussi.
Oui,
vous parlez de basque?
Moi, je ne le parle pas, mais j'ai essayé, c'est impossible de l'apprendre.
Non. Ma question, c'est est-ce que votre question est spécifique sur les basques?
Non, mais si je le prends comme exemple, justement, parce que je trouve cas très intéressant.
Ça dépend beaucoup, et c'est très intéressant ce que vous dites. Souvent, dans les 90% des fois, deux populations lointaines génétiquement le seront linguistiquement aussi. Si vous faites un arbre génétique et vous faites un arbre linguistique, ça coïncide dans les 90% des fois. Mais il y a des exceptions. L'exemple des Basques, isolat linguistique. Sa langue n'appartient à aucune famille linguistique connue. En revanche, ils sont un tout petit peu différents à ses voisins, mais en gros, sont des très bons Européens de l'Ouest.
Oui, parce que c'est un lieu de passage, en fait.
Oui, à la grande déception, quand je le racontais à Bayonne, parce que
évidemment,
il y avait des gens qui avaient envie d'être aussi différents génétiquement.
Et on a envie, évidemment, de revendiquer sa singularité.
Je peux comprendre.
Et ce qui est assez fascinant, d'ailleurs, c'est que quand on vous lit, on découvre... Alors, les Basques sont un peuple extraordinaire, Natacha, on sait, les Juifs ashkénazes... Également, mais si on regarde de l'autre côté de la planète, excusez-moi Gilles, on n'aura pas la réponse tout de suite pour les Ashkénazes, mais en l'occurrence, ce qui est incroyable, c'est de voir comment l'homme s'est adapté à des conditions de vie extrêmes. Et ni les Juifs Ashkénazes, ni les Basques ne sont capables de faire ce que peuvent faire les Bajau. C'est un peuple qui est situé entre les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, et ils peuvent tenir 13 minutes en apnée. 13 minutes en apnée, c'est extraordinaire. Et ils passent une très grande partie de leur journée à plonger à 60 mètres de profondeur. Ça défie l'entendement, ça montre la capacité d'adaptation des humains. Et là, on a un parfait exemple de mélange entre le culturel, le mode de vie, et les changements génétiques. C'est ça aussi que vous racontez dans votre livre.
Oui, et c'est fou qu'on puisse s'adapter. Ça donne quand même de l'espoir dans notre espèce. Parce que ça montre qu'on a pu s'adapter à des environnements extrêmes. La vie en forêt équatoriale, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une vie infernale de chaleur et humidité. Et c'est pour ça que la plupart des populations qui habitent en forêt équatoriale sont plus petites, ce qu'on appelle le phénotype pygmée, aux Philippines, en Afrique centrale, au Venezuela par exemple, pour avoir moins de surface, pour perdre de l'énergie. On peut s'adapter à vivre à des milliers de kilomètres en altitude où il y a 40% de moins d'oxygène.
Oui.
Au Tibet, aux Andes, ou un autre exemple d'adaptation à des milieux extrêmes. Et le cas de Bajau en Indonésie, qui effectivement résistait 13 minutes en apnée, et grâce à ça, ils ont acquis une rate beaucoup plus grande que nous, qui est sous contrôle génétique d'une mutation qui a été sélectionnée par la sélection naturelle parce que leur permet de tenir 13 minutes sans respirer.
Un petit mot quand même pour raconter à Gilles, oui, cette spécificité des Juifs ashkénazes. L'émission touche à son terme et j'aurais une dernière question, Natacha également. Donc pour répondre à Gilles.
La réponse sur les Juifs ashkénazes, oui, que sont... Ils ont été plus isolés pour des raisons culturelles, comme les Sardes ou les Finlandais, et ça fait qu'ils peuvent avoir, comme vous savez, certaines maladies génétiques à des niveaux plus élevés.
Natacha ?
Je voudrais revenir sur la question du Covid, parce que, justement, il y a quelque chose qui, depuis le début de cette épidémie, me fascine, c'est la question de savoir s'il y a des êtres humains qui vont résister naturellement au Covid, puisqu'on voit bien que c'est une maladie asymptomatique, que des gens vont l'attraper, d'autres non. C'est lié au patrimoine génétique, comment on fait, comment votre travail peut aider la médecine et à déterminer, et ensuite peut-être à trouver comment utiliser ça.
Luis Quintana Murci.
Le travail en génétique de population peut mettre en évidence des gènes qui nous rendent différents face au Covid et face à la sévérité du Covid. Il y a même des exemples, des mutations qu'on a héritées de Néandertal, que soit nous protègent avant 2% contre le Covid, soit d'autres mutations que 16% d'entre nous Européens avons et que les avons héritées de Néandertal, qui augmentent de 60% de nos chances de développer un Covid-19 sévère.
Impossible de ne pas vous poser une dernière question liée au contexte, en l'occurrence. Qu'est-ce que le scientifique pense de la manière dont, en politique, on parle de l'identité, justement, de ce qu'est un peuple, de la volonté de figer une culture, de l'isoler de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur et de l'étranger ?
Le scientifique ne pense rien de ça. Le citoyen...
Et quand il enlève sa blouse ?
Je suis un peu dégoûté.
Un peu dégoûté. Gilles, on va devoir malheureusement.
Oui, je lis juste la dernière phrase, votre dernière phrase. Ouais. Sans diversité, sans différence, il n'y a pas d'évolution ni de progrès, et cela dans tous les sens du terme.
Ben voilà.
Eh ben écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir, Luis Quintana Murci. Le livre est passionnant, Le peuple des humains, est publié chez Odile Jacob. Natacha et Gilles, je vous salue et je vous donne rendez-vous début janvier, puisque c'était la dernière émission de 2021. Merci infiniment à Mathilde Clade qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Adèle Caglar, et je vous souhaite, chers auditeurs, de très très belles fêtes de fin d'année.